With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Aujourd'hui, on va vous parler de Deathloop et Thomas va nous expliquer pourquoi c'est déjà son triple GOTY. On va aussi passer en revue le PlayStation Showcase avec des annonces surprenantes. On a aussi un petit retour sur Tales of Arise que j'ai pu un petit peu tester. The Artful Escape, un jeu peut-être à ne pas rater pour certains, en tout cas très impressionnant. Et tout le reste de l'actu gaming, tout ça c'est dans le rendez-vous jeu tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, une nouvelle semaine, un nouvel épisode avec plein de news, un programme extrêmement chargé. Je vais, avant même de présenter mes invités, profiter d'une petite seconde de calme et de répit avant la tempête des infos pour remercier Yann Maréchal, Greathood X, Fabrice, et d'ailleurs je me demande si Greathood X c'est pas plutôt Greathood X, parce que c'est en anglais, vous voyez, et Fabrice et Stéphane Gregory Satha, qui est le producteur, Stéphane, qu'on remercie tous les mois pour ses contributions exceptionnelles au financement du rendez-vous jeu, comme toutes les personnes qui contribuent au rendez-vous jeu, qui sont absolument tous et toutes exceptionnelles. Vous avez mon cœur dans vos mains et vous en prenez soin, donc je vous remercie du fond de ce cœur qui est dans vos mains. C'était émouvant, c'est devenu un petit peu bizarre sur la fin. Merci à tous en tout cas de soutenir le rendez-vous jeu. On est sur Twitch comme tous les jeudis midi et on va parler donc de toute l'actu gaming à la fin de l'épisode. Pour ceux qui sont sur le Patreon, eh ben vous aurez aussi un after show qu'on va peut-être faire sur vos années GameCube parce que c'est les 20 ans de la GameCube cette semaine et du coup il y a quelques personnes à qui ça va peut-être faire plaisir. Moi, j'ai pas eu de GameCube. C'était un moment où pour moi... Dany, tu m'as explosé les oreilles, ton choc était perceptible.
Ah ouais.
On verra, on en parlera peut-être dans l'after show. Oui, je sais, le choc est réel. Et donc, on est avec d'abord Dany qui est là tous les mois avec nous. Comment ça va, Dany? Tu es en forme?
Eh bah, ben, tout va bien, comme tu l'entends. Un peu déçu maintenant, j'hésite à quitter le podcast de manière furieuse et énervée en point vengeur vers le ciel. Mais sinon, à part ça, tout va bien. J'ai trop peu de temps pour jouer, malheureusement, mais je suis très content d'être ici avec deux super auditeurs, deux super animateurs.
Oui, c'est-à-dire, les deux autres, moi, tu me comptes pas dans les super animateurs, bien sûr. Je comprends.
Bah non, toi, t'es le chef d'orchestre.
Ça ah, d'accord, le maître de cérémonie, MC Patrick. On a également Aurélie qui nous rejoint depuis Asobo, dont elle est Head of Comms, qui nous a fait le plaisir d'être présente à plusieurs reprises dans l'émission. Donc, on n'a pas dû être trop indisciplinés non plus, ou peut-être juste assez indisciplinés. Salut Aurélie, ça va? T'es en forme?
Salut, ouais, ça va super bien, je te remercie beaucoup. J'espère que tout le monde passe une bonne rentrée. C'est cool d'être présent avec vous aujourd'hui.
Très heureux de t'avoir dans l'émission une nouvelle fois, surtout que j'imagine qu'Asobo s'est quand même hyper occupé ces derniers temps, donc merci de dégager un petit peu de temps pour nous. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois, je crois, dans l'émission, Thomas Mehrer, alias... Alors, on dit Amaebi, c'est bien ça?
Tout à fait, exactement, oui.
C'est Amaebi, très bien, très bien.
Amaebi, oui.
C'est une amie, je voulais te demander depuis des années que je te lis sur Gamekult, c'est parce que tu te trouves amibesque ou amiboesque, ça date d'avant?
Non, c'est vraiment très très bête, c'est qu'à la fac, je vais essayer de la faire très très courte,
okay,
mais en gros, à la fac, en sortant de l'amphi, mon meilleur pote de l'époque m'a appelé Crevette, et c'est resté gravé en fait, ça m'a suivi, ça a été mon surnom officiel, sauf que Crevette, quand on écrit pour les jeux vidéo, c'est déjà pris, et quand j'ai écrit pour Gamekult, Clément Appape, le rédac chef de l'époque, était voulait pas trop qu'il y ait un Crevette dans l'équipe, et il se trouve que quelques années auparavant, je traînais sur les forums de Phantasy Star Online, qui était vraiment envahi de fans du Japon, et un jour j'ai demandé mais au fait comment on dit crevette en japonais, et puis quelqu'un a répondu Amaebi.
Ah, donc voilà. Voilà. C'est Ama et Bi.
Voilà la grande
mais
révélation.
D'accord.
Ah, mais
sushi et Bi.
Voilà, crevette, quoi.
Oh ah, là
les Japonais
là.
Ont tout inventé. Hein.
C'est fou, mais c'est... Ah, mais j'ai des années...
C'est le premier chapitre de mon autobiographie, voilà, en exclusivité pour vous.
Super. Bah, écoute, très heureux de t'avoir dans l'émission, surtout que tu as testé Deathloop et tu en penses beaucoup de bien. Et c'est vrai que c'est un jeu qui était assez mystérieux, qui a été présenté il y a bien longtemps et dont les trailers étaient assez... Enfin, n'arrivaient pas vraiment à expliquer ce dont il s'agissait. Moi, j'étais même un petit peu inquiet pour le jeu. Et au final, ton test et de nombreux autres semblent dire que c'est une vraie réussite pour Arkane, studio français. C'est Arkane Lyon hein, qui l'a fait, je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, exactement.
C'est ouais. eux. Donc, une vraie réussite et un concurrent, on va dire un contestant dans, pour les jeux de l'année. Donc, on va en parler tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais qu'on couvre le PlayStation Showcase qui a eu lieu la semaine dernière. On avait fait des petites prédictions dont toutes ne se sont pas révélées. Exact, heureusement ou pas. Et bah on va en parler un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler ce qui s'est passé dans ce PlayStation Showcase et puis je vous demanderai chacun à votre tour quelle est la chose que vous retenez de ces différentes présentations. Alors, ils ont ouvert, d'abord sur la forme, c'était le Showcase PlayStation un petit peu comme on les aime, c'est-à-dire très peu de parlotte et beaucoup de trailers. Donc, c'était sur la forme, en tout cas, assez réussi, j'ai trouvé. Mais il y avait donc des annonces, en plus de trailers qu'on avait, de choses qu'on avait déjà vues. Ils ont ouvert assez fort avec le remake et pas juste le remaster de Knights of the Old Republic, qui était une exclusivité console du côté de la Xbox, qui va revenir exclusivement sur la PlayStation 5, mais dont on n'a absolument rien vu. Hein. Donc on imagine que ce n'est pas pour tout de suite. On a un tout petit teaser, on va dire, et pas de date. Donc c'est vraiment juste une petite annonce. S'en est suivi une série de jeux assez différents. Moi, j'en ai retenu quelques-uns. Peut-être le Project Eve, qui est à mi-chemin entre un jeu de combat monde ouvert, peut-être, et ça me fait penser à... Ah merde, le Platinum de la Switch, enfin de Nintendo.
Bayonetta,
voilà, clairement. C'était quand même...
Il y a gros vibes Bayonetta dessus, carrément.
Très, très gros, ouais. Un jeu d'aventure qui avait l'air effectivement assez plein de charme, qui s'appelle Chia. Il y avait plus de gameplay pour... Enfin, vraiment, les premières vidéos de gameplay pour Ghostwire Tokyo. On a vu beaucoup de gameplay pour, enfin, une petite partie de gameplay pour Forspoken aussi, l'ancien Project Atia, alias la démo du Unreal Engine 5. Et puis, il y a eu quelques autres choses. Et ensuite, on a eu une bonne quinzaine de minutes avec les jeux First Party, donc les jeux des PlayStation Studios, et notamment, bah, peut-être des annonces que je ne vais pas mentionner parce qu'on va sûrement en parler dans un instant. Je vais me tourner du coup vers Thomas qui sera sans doute, qui aura beaucoup la parole quand on va parler de Deathloop, mais du coup, je vais la lui donner maintenant pour qu'il commence. Qu'est-ce que tu retiens de ce PlayStation Showcase ? Qu'est-ce qui t'a marqué, dis-moi ?
Écoute, le 4 mars 2022, voilà, je sais ce que je ferai ce jour-là, mais ça, c'est du force party, alors tu pourras peut-être en parler un petit peu plus tard.
Non, tu peux dire ce que tu veux,
Eh bien écoute, oui, bah, l'annonce de la date de sortie donc, de Gran Turismo 7, évidemment, même si le trailer ne m'a pas rassuré des masses.
C'est vrai, pourquoi il t'a pas rassuré ?
Ben il y a des images vraiment dégueulasses dedans.
Ah tu trouves ? Moi je trouvais que c'était.
Alors non mais je suis très très partagé. Bon, évidemment le début avec cette intro limite Jean-Sébastien Bach qui fait une reprise de Moon Over the Castle quoi, qui file des frissons. Mais bon, on a en gros 30 secondes, enfin même pas 20 secondes de gameplay et tout le reste c'est de l'anime sur un tiers de la bande-annonce et surtout un temps fou sur le mode photo et puis l'éditeur de livret et puis de tout ce qu'on pourra tuner sur les voitures. Donc ça, c'est ouais, très cool c'est pour les fans, mais c'est un peu limité.
C'est un peu fétichiste comme souvent les... C'est un peu fétichiste comme souvent, j'ai l'impression, les trailers des jeux de voitures. C'est regarder l'intérieur du piston qui explose et vous voyez la réflexion de la lumière sur ce capot, machin. Je me demande si c'est pas parce que le fait de montrer un jeu de voiture, on a atteint un tel niveau de qualité déjà sur la génération précédente pour des jeux de ce type-là, que c'est difficile d'en montrer quelque chose qui soit un petit peu wow factor. Et donc, ils se disent, on va montrer des détails. Mais c'est quoi les images cracra? Moi, j'ai
non,
pas
non,
eu
mais j'ai surtout vu. Déjà, les screenshots sont pas fous quand même, alors que on pense qu'il y a Photoshop qui est passé par derrière en plus. Donc, c'est. C'est vrai que j'avais plus d'appétit pour du gameplay et j'en ai pas vu beaucoup. Les bruits sont pas très rassurants. Il y a notamment une vue aérienne de High Speed Ring qui fait hyper peur avec son. Avec ses graphismes de PlayStation 2, mais attendons de voir, parce que voilà, Polyphony Digital, ça reste quand même surtout depuis Gran Turismo Sport, en fait je suis vraiment réconcilié avec eux. Moi, je suis un très 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 gros fan de la licence, hein. C'est comme ça que j'ai découvert quasiment les jeux de voiture, c'est Gran Turismo 1, quoi. C'est le premier jeu qui m'a appris à freiner dans un jeu de bagnole, donc c'est pour moi c'est vraiment un jeu mythique. Après l'épisode 4, 5, 6, j'ai un peu décroché. Vraiment, c'est un jeu qui est resté un petit peu en patouillé dans ses anciens trucs et qui n'a pas vraiment
su évoluer.
J'attends vraiment ça, surtout, quoi. Voilà, ouais. Il est vraiment resté englué dans des travers de vieux jeux, mais j'ai quand même super hâte, évidemment. De découvrir ça, et j'espère qu'il sera au rendez-vous, quoi.
On verra, du coup, c'est le 4 mars qu'il arrivera, effectivement. Si tu attends de Polyphony qu'il fasse un truc un petit peu plus moderne, je crains que tu ne sois déçu. Ils ont l'air de s'être concentrés sur le mode photo, mais qui sait, peut-être qu'il y aura quelque chose d'autre.
Écoute, ils ont gardé l'interface de GT Sport. GT Sport était franchement une petite révolution, je trouve, à l'échelle de Polyphony Digital, quand même, hein, en termes de design. On peut être surpris, je pense.
Aurélie, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans cette présentation-là?
Au début, quand j'ai vu la conf, j'ai dit ouais, ok. Et puis en fait, quand tu re-regardes, il y avait vraiment, vraiment plein de trucs. Juste pour enchaîner sur ce que vous disiez sur Gran Turismo, peut-être aussi nous, on est en train de travailler sur Flight Sim, et c'est vrai que j'ai regardé ce trailer avec beaucoup d'intérêt, parce que nous aussi, le travail de sublimer les avions, c'est quelque chose qui est super important pour les simmers. Et du coup, peut-être qu'ils ont aussi envie de mettre en avant les petits bijoux technologiques. Donc bon, c'est une tendance que nous, on regarde beaucoup. Et puis le mode photo, en ce moment, c'est en train d'exploser sur tous les réseaux sociaux, donc ça ne m'étonne pas qu'il l'ait bien mis en avant. Mais je suis assez d'accord, on reste un petit peu sur sa fin pour tout le reste. Moi, on va en parler après. J'ai vu Deathloop et j'ai flashé dessus. J'étais passée complètement au travers de la com. Et puis Arkane, ils font toujours un super boulot. Donc je suis vraiment contente que ça vienne d'Arkane Lyon. C'est vraiment, vraiment... Je pense que c'est le trailer j'ai bien flashé. Puis j'ai bien aimé Forspoken aussi. J'ai trouvé ça vraiment super. Ça m'a donné envie, quoi.
C'était assez intéressant, Forspoken. Oula, j'ai du son dans les oreilles. Forspoken, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est un jeu qu'on avait vu, qui s'appelait, c'était lui, le Project Actia, je crois, au départ. Et il ressemble beaucoup, j'en plaisante un petit peu, mais je ne suis pas le seul. On est un peu taquin sur ce truc, mais il ressemble beaucoup à la démo de l'Unreal Engine 5 qu'on a vu il y a presque un an, je crois. Mais là, donc, il a vraiment une identité. Le personnage principal de Forspoken est du coup dans un univers, enfin dans notre monde, et puis tout à coup, elle est transportée dans un univers qui est une sorte de désert, pas vraiment Heroic Fantasy, mais cette ambiance un peu, comment dire, particulière, avec quelque chose de
limite médiéval fantastique un petit peu, de ce qu'on aperçoit. Il y a un petit côté quand même aussi avec ces immenses ruines de châteaux, etc. Ça a l'air un petit peu de s'imprégner de ça quand même.
C'est ça, au minimum médiéval fantastique. Puis elle est complètement elle est complètement dans son esprit de personne normale moderne qui est transportée dans ce monde là et du coup elle fait plein de remarques marrantes, genre je peux envoyer des trucs du feu avec mes mains maintenant, je peux voler et tout. C'est le genre de truc qui risque de fatiguer assez vite si c'est tout le temps comme ça, mais c'est, je trouve, relativement rafraîchissant. Et puis le jeu est très très beau, il est dynamique, c'est un jeu d'action à la troisième personne. Moi, je suis aussi assez curieux de voir ce que ça va donner. C'était l'un des trailers qui marquait effectivement dans cette présentation.
Ouais, je suis carrément d'accord. Ça m'a fait un peu penser à Infamous, Second Son notamment, quoi. Justement, ce côté le gamin qui découvre des pouvoirs pas possibles et tout. Et l'héroïne a l'air vraiment cool. Enfin, ça peut être fatigant. C'était fatigant dans Infamous. Il y a pas de raison que ça soit pas là, mais c'est ça donnait un truc. Là, il y a un télescopage qui peut être vachement intéressant. Et je suis d'accord que c'est un des trailers que je retiens le plus carrément de... Enfin, c'est ma cam, en tout cas, carrément. Ça a l'air open world, des pouvoirs, une meuf cool. Enfin, voilà, je pense que ça devrait le faire.
Ouais, on est d'accord. Et puis, il y a beaucoup d'emphase sur le mouvement. Elle bouge très, très vite dans les environnements. Elle vole, elle saute très loin. Je suis curieux, on va dire. On n'est pas encore à un stade où c'est le jeu que j'attends le plus de ma vie. Mais très clairement, je suis assez curieux. Dany, est-ce que tu as un truc que tu as retenu de cette conférence, toi aussi ?
Oui, alors deux en fait. La première, c'est moi j'ai trouvé que Chia, ça a l'air différent, sympa, mignon et fun. Bon, on verra ce que ça donne. Mais la bande-annonce m'a interpellé parce que ils essayent quelque chose de vraiment pas courant.
C'est un jeu qui est inspiré par la culture de Nouvelle-Calédonie et les environnements et c'est très stylisé effectivement. Et je ne sais pas à quel point il y a du gameplay dans le jeu, mais on a l'impression de passer des vacances quoi, en le regardant. C'est doux.
Mon inquiétude, en fait, c'est que ce soit plus une jolie vidéo, une jolie présentation et un bon jeu sur papier. Mais est-ce qu'il va être fun à jouer pendant des heures ? Est-ce que le plaisir de la découverte va durer ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est à essayer. Et la deuxième chose, en fait, moi, qui m'a interpellé, c'est les deux remakes ou remasters. Star Wars KOTOR, parce que finalement, je suis passé à côté à l'époque. Je n'y ai pas joué, donc ce sera pour moi l'occasion d'y jouer dans des conditions... raisonnable parce que bon, il a quand même beaucoup vieilli, je trouve. Graphiquement, je m'étais tâté à un moment et pas possible. et Alan Wake Remaster parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé Alan Wake quand il était sorti et j'y rejouerai bien.
Alan Wake, tu l'avais fait. Moi, je suis passé à côté des deux, hein, de Star Wars et de Alan Wake. Mais c'est vrai que le Alan Wake, on en parlait depuis un moment, ce remaster. Et là, il arrive là le 5 octobre, donc dans moins d'un mois. Tu vas pouvoir te lancer là-dedans. Est-ce que ça préfigure
vraiment, j'ai beaucoup aimé.
Tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'était que Alan Wake, pour ceux qui l'auraient raté, il a une bonne dizaine d'années au moins, Alan Wake. Hein. C'était pas un jeu de lancement 360 ou un truc comme ça ?
C'était un jeu Xbox 360 et je sais pas, moi j'y ai joué. Enfin, à l'époque, je l'avais trouvé peut-être à 10€ sur ces discounts, tu vois. Donc, c'était déjà. Et j'ai dû y jouer en 2010, un truc comme ça. Donc, il date. Hein. Et qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un survival horror. Pas vraiment horreur en fait, mais plutôt fantastique. Et en gros, ça commence à dater, hein. Mais c'est un écrivain, je crois, qui a perdu sa femme récemment, qui va s'exiler en fait dans un petit village au fin fond des États-Unis, et il se passe des trucs bizarres.
D'accord. Et il y a beaucoup de jeux avec la lumière et on a une lampe torche. Ouais.
En gros, c'est un peu. Ça me rappelle le premier Silent Hill où tu passes par moments dans une sorte d'autres dimensions alternatives où il y a du brouillard, tu vois rien, etc. Et en fait, ta lampe de poche te permet de faire disparaître temporairement les ennemis pour pouvoir les passer, etc. Si t'as pas de quoi les tuer, et je crois que c'est un jeu où t'es plus... c'est vraiment un survival dans le sens où, dans mes souvenirs, t'as pas beaucoup de munitions et il faut jouer justement avec la lumière pour te permettre de tenir le coup.
Bah écoute, on verra, c'est un jeu évidemment de Remedy hein, qui a connu un gros succès avec Control, qu'ils ont d'ailleurs lié à l'univers d'Alan Wake avec la deuxième extension. Donc on verra ce que ça donne et peut-être que ça préfigure un nouvel épisode de ce jeu-là. C'est un jeu que beaucoup de gens, qui a peut-être pas fait un énorme bruit ou en tout cas qui n'était pas hyper apprécié au lancement, mais beaucoup de gens en parlent encore aujourd'hui, donc ça serait peut-être l'occasion de le redécouvrir. Je note quand même, c'est un remaster, hein. C'est pas un remake, donc c'est pas le plus beau jeu de l'histoire. Il ressemble à ce dont on se souvient en fait, et pas à ce qu'il était. Quand on s'en souvient, on se dit « Ah ouais, il ressemblait à peu près à ça », et quand on va voir le vrai jeu, c'est genre, ah non, 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 c'est pas du tout. C'est souvent.
Mais non, il était super beau.
Certainement, dans notre souvenir, oui. Bah écoutez, je suis. Du coup, vous me laissez que les. Vous me laissez tous les bons morceaux, hein, parce que. Ou peut-être les mauvais morceaux.
Parler.
vous n'avez pas du tout parlé
soir,
de. de jeux first party. Mais il y avait quand même de quoi faire. Thomas a parlé de Gran Turismo. Insomniac a quand même été la star de cette présentation, parce que non seulement ils ont annoncé un truc dont on pouvait imaginer qu'il allait arriver, c'est Spider-Man 2, dans lequel il semble qu'on pourra peut-être jouer, peut-être pas en coop, mais peut-être les deux Spider-Man, et le méchant, en tout cas l'un des méchants, sera...
Venom,
merci. C'est marrant parce que évidemment Venom est l'un des personnages au cinéma qui est poussé par Sony, donc c'est peut-être pas surprenant qu'ils le mettent dans le jeu vidéo aussi. Et donc ça, c'était évidemment un truc qui était assez excitant, puisque le premier Spider-Man a été quand même l'un des meilleurs jeux de 2018, et c'est l'un des meilleurs jeux de super-héros qui soit. Et d'un autre côté,
Rocksteady, Batman Arkham. Non, ça va, tout va bien, on ne vous dérange pas.
je pourrais dire que Spider-Man est meilleur, mais ce que j'ai dit, Thomas, c'est l'un des meilleurs jeux vidéo de super-héros.
D'accord, alors si tu,
donc,
si tu veux.
Je crois que je suis factuellement assez dans le juste.
Bon, ok.
Okay. Oui, pas trop.
Mais peut-être sera-t-il détrôné par la vraie annonce de ce showcase. C'est évidemment le mini teaser trailer qui ne montre presque rien et dont on n'a pas la date, mais qui montre que Insomniac est aussi en train de travailler sur un jeu Wolverine. Et là, ça rigole plus, parce que Wolverine est l'un des personnages préférés de l'univers Marvel de la plupart des fans de comics, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un bon jeu Wolverine, et il a l'air là on sait rien du tout parce qu'on a 30 secondes de trailer, mais c'est quand
il
même très excitant. Il a l'air c'est Logan, hein. Il est
il
alcoolique,
il
est...
C'est...
je l'aime beaucoup Wolverine, parce que c'est en fait un super-héros qui est, j'exagère un tout petit peu en disant ça, mais l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens aiment Wolverine, qui entre parenthèses, un Wolverine en français, c'est pas du tout un serval, c'est un glouton. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas appelé glouton et donc pas Wolverine en français. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé serval, qui n'a rien à voir avec un Wolverine. Bref, ce petit trivia de comics passé. Wolverine, c'est un personnage qui est, on va dire, qui a tout d'un méchant, sauf que c'est un gentil, en fait. Il est jamais content, il aime pas les gens, c'est un petit peu Patrick,
Patrick,
oui, c'est ça, exactement. Il est
velu.
Jamais content, il aime pas les gens, il est velu, il a des lames en adamantium qui lui sortent des mains. Non, ça correspond pas. Mais je veux dire, c'est quand même le méchant au grand cœur, mais qui est quand même toujours ronchon, et qui en plus a un set de pouvoir super cool. Bref. Si on aime les super-héros, je pense qu'on va l'attendre avec impatience. Et puis surtout, comme je le disais, Insomniac, qui a fait le meilleur jeu de super-héros de tous les temps, Spider-Man 2018, évidemment, on attend.
Je suis en train de m'étrangler, pardon.
on a hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Wolverine, qui est un personnage dont, au niveau gameplay, ça va, on imagine, retranscrire les pouvoirs de manière très différente, parce qu'il est toujours au contact, il découpe des trucs. Est-ce que ça va être sanglant, c'est possible. Est-ce que ça va être interdit au moins de 18 ans comme jeu, je sais pas. Mais ceci dit, ils ont annoncé donc Spider-Man 2 pour 2023. Donc pas 2022 mais 2023. Wolverine, c'est pas avant 2024-2025. On a le temps de voir venir. Il y a des retards qui risquent d'arriver aussi, donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Mais ça, c'était un petit peu l'annonce que j'ai retenue. Et puis, c'était le jeu annoncé dont on n'avait pas entendu parler avant. Et évidemment, il y avait également le premier trailer de gameplay de God of War Ragnarok, qui est... Alors, je veux pas être trop méchant avec le jeu, c'est pas une critique que je vais faire, mais c'est vrai que bah, c'est un petit peu God of War 2018, là encore, ils sont tous sortis en 2018 ces jeux, c'est God of War 2018, avec du plus de God of War, avec Atreus qui a grandi, qui est maintenant un ado qui se plaint tout le temps au lieu d'être un enfant qui se plaint tout le temps, plus jeune. Et puis on a cette image de Thor qui a été diffusée après, qui est Thor plus dans la, comment dire, dans la mythologie nordique. C'est pas Chris Hemsworth, hein, c'est vraiment le Thor, l'homme vraiment fort. Vous savez, les gens qui font le concours de l'homme le plus fort du monde, qui ont un gros bide, des gros muscles et qui vont tirer une locomotive avec les dents, c'est ce genre de physique. Mais le jeu en lui-même, bon, on n'en voit pas grand chose, mais ça a l'air d'être un petit peu ça a l'air d'être God of War, ce qui est normal, hein, c'est ce qu'on veut, mais certains ont eu une réaction un petit peu mitigée, je dirais. Je ne sais pas si vous, ça vous a un petit peu moins parlé peut-être, mais c'était...
Je trouve qu'ils ne prennent pas beaucoup de risques en fait, hein. C'est honnêtement, tu transposes l'ancien avec les, effectivement les personnages qui ont un peu changé, c'est quasi pareil, donc le jeu était super, il n'y a pas grand-chose à changer je pense, mais en contrepartie, ouais, y a pas, on sait à quoi s'attendre disons.
Ouais. Bon, on a vu 3 minutes de trailer, hein. Il y aura peut-être d'autres choses ensuite, mais oui, pardon Aurélie.
Non, pas de souci. C'est juste, c'est symptomatique peut-être de notre réaction à nous, où on a vu la fraîcheur venir peut-être un petit peu de l'extérieur, parce qu'effectivement j'ai eu cette réaction aussi en voyant le trailer de God of War, dire ouais c'est génial, j'avais trop envie de pouvoir prolonger ce que j'avais vu et fait en 2018, mais en même temps pas trop de surprises. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on t'a laissé la primeur d'en parler de tous ces jeux-là. C'est que c'est cool, mais bon, effectivement, pas de prise de risque vraiment. Quoi.
C'est l'éternel débat de à quel point des gameplays doivent évoluer, à quel point une suite doit être parfaitement original. J'ai envie. Moi, je suis pas un très grand connaisseur de la saga. J'ai juste envie de dire The Last of Us, quoi. Je veux dire, si vraiment tu... moi, The Last of Us 1, je l'ai fini, mais alors vraiment, il m'est tombé des mains, mais parce que peut-être j'avais du scotch dessus et des allumettes dans les yeux, mais c'était pas loin. Et par contre, j'ai beaucoup aimé le 2, qui pourtant, très factuellement, est pas radicalement novateur en termes de gameplay, et pourtant, il apporte quelque chose. Donc, qui sait, peut-être qu'il se réserve pas mal de petites surprises. Et puis, après, voilà, c'est l'éternel débat sur qu'est-ce qu'on attend d'une suite d'un jeu vidéo. Est-ce qu'on veut plus de la même chose? Est-ce qu'on veut vraiment plus de plus? Est-ce que parfois, plus de plus, c'est possible, etc., etc., quoi.
Alors, c'est bien, tu t'es rattrapé sur The Last of Us 2, parce que sur le premier, j'allais moi aussi commencer à m'étrangler quand tu disais qu'il t'est tombé des mains.
Il est un peu chiant, quoi. Le gameplay est pas intéressant. L'IA est tout pourri.
N'en rajoute pas, Thomas, n'en rajoute pas.
Il y a des aberrations d'infiltration.
Je suis totalement d'accord. Et pour moi, la formule 1 ou du 2, c'est l'écriture et le scénario.
C'est l'écriture, voilà.
Peut-être que je n'aime pas, moi, personnellement, mais c'est l'écriture plus que le gameplay ou la qualité intrinsèque du jeu.
Ça, on est d'accord.
Parce que t'enlèves tout le cinéma, quoi. Désolé, j'ai une manette dans les mains. Moi, je veux jouer, quoi.
Bon, on va pas faire un débat sur The Last of Us. On se quitterait mauvais amis. Mais pour reparler de God of War, effectivement, tu le dis très bien, la question de la suite est complètement... et tout revient systématiquement. Je pense que le passage de génération joue aussi. Alors oui, ce jeu-là sera sur PlayStation 4 également, donc ils ne pouvaient pas tout faire exploser et faire un jeu spécifique à la PlayStation 5. Mais du coup, on avait quand même un petit peu envie de se dire « Ah bah oui, là, ça va être God of War sur PS5, donc ça va être autre chose. » Et au final, ce n'est pas autre chose qu'on a, donc ça explique un petit peu peut-être ce sentiment également. Mais bon, au final, là, on a vu 3 minutes de gameplay. Ça se trouve, il y aura d'autres choses. Et puis, quoi qu'il en soit, moi, je pense qu'on me redonne du God of War 2018 pendant 20 heures de plus, j'aurais très très content et comme le dit également, et on va conclure sur ça, Sienne dans la chatroom, tous les risques étaient pris à l'épisode d'avant. Donc on va pas leur demander de tout réinventer à chaque épisode non plus, sachant qu'en plus, ils ont déjà dit que cet épisode serait le dernier de la saga nordique pour Kratos. Donc j'imagine qu'ils commencent déjà à penser à ce qui viendra après, ou en tout cas ils ont bien écrit l'histoire. Bon, le jeu sort l'année prochaine, donc il serait temps. Et ils savent qu'on va arriver à la conclusion. Donc c'est pas trop mal ça non plus, ils vont pas faire traîner les choses pendant 3 épisodes et on va avoir une conclusion satisfaisante. Ce qui était peut-être le petit souci du premier, on restait un peu sur sa fin au niveau de l'histoire, on sentait qu'ils voulaient conclure après. Donc voilà, d'autres choses, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce showcase. Je veux juste redire un tout petit mot sur Project Eve, qui avait l'air vraiment, vraiment intriguant. C'est un jeu coréen, si je ne m'abuse, et c'est un jeu qui a l'air d'être très inspiré par les jeux japonais, et notamment Bayonetta, il semble. C'est une héroïne qui se bat contre des monstres très, très moches. Cette vision d'une sorte de Shumagorath avec des yeux sur ses yeux qui était assez terrible. Et on a là encore des environnements assez immenses et beaucoup de dynamique dans les mouvements ou dans les combats. C'est à surveiller aussi, on va dire. On n'a pas de date pour le jeu, mais c'était un des jeux qui a marqué, on va dire. Voilà pour le PlayStation Showcase. On va passer du coup à la discussion sur Deathloop. Je vais juste vous demander avant ça si vous êtes quelqu'un de cool ou quelqu'un de super cool. Je crois que vous êtes forcément quelqu'un de cool parce que vous écoutez le rendez-vous jeu. Mais sachez, saviez-vous que vous pourriez devenir quelqu'un de super cool ? Il y a un moyen très très simple, c'est simplement d'aller soutenir le rendez-vous jeu sur Patreon, patreon.com/rdvjeu. Vous pouvez aller là-bas, rentrer vos infos et devenir un soutien qui permet à l'émission d'exister. Et en plus de ça, vous aurez accès à tout plein de bonus comme les timecodes pour les épisodes, si vous voulez passer un passage qui vous intéresse plus, l'absence totale de publicité, l'absence même de ce petit laïus sur le Patreon, puisque vous serez déjà abonné, vous aurez des contenus bonus, enfin plein de trucs, et en plus, comme je le disais, vous deviendrez quelqu'un de super cool. Alors, si vous êtes déjà super cool, peut-être pas besoin. Si vous voulez vous assurer que vraiment, vraiment, vous êtes quelqu'un de super cool, patreon.com/rdvjeu, c'est garanti, super coolitude immédiate, pour une somme tout à fait modique. Donc, je vous remercie de faire un petit tour sur patreon.com/rdvjeu. Le lien est dans les notes de l'émission.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Toujours.
Mais j'ai pas compris, ça rend super cool du coup, c'est ça ?
Mais complètement, c'est scientifiquement prouvé, Thomas, scientifiquement prouvé.
Je veux les liens vers l'étude. Hein.
On la passera ensuite sur le. Si elle est sur Twitter quelque part.
Vraiment, mais, truc critère, machin quoi.
Complètement, complètement. Je l'ai vu sur Twitter, donc c'est forcément vrai.
Ah bah c'est que c'est vrai alors.
Bon, donc, parlons un petit peu de Deathloop. Je suis très curieux de t'en entendre parler. Alors, ta review sur Gamekult est assez, je ne vais pas dire dithyrambique, mais en tout cas, elle est clairement extrêmement positive. la première question que j'ai envie de te poser, c'est Deathloop, c'est quoi ? Il est sorti, je précise, hein, il est sorti il y a 2 jours. Et moi, ce que j'ai compris, c'est genre, c'est un rogue Hitman en roguelite fait par Dishonored. Et j'ai rien compris. C'est quoi, Thomas, Deathloop ?
C'est un peu ça. Avec, tu peux rajouter en plus un design années 60-70 quoi, pour finir le truc. Et tu peux rajouter une louche de Outer Wilds. Tu prends tout ça, hein, en gros, tout ce que tu as cité, tu le mélanges ensemble. Et puis ensuite, vraiment, tu prends quand même un tout petit peu de distance avec tout ce que tu viens de citer parce que c'est ça, sans vraiment être ça. Mais enfin, on sent plein d'influence, mais vraiment, tout ça est vraiment ressort dans le jeu de manière vraiment très fine et intelligente et vraiment de manière très très personnelle. Donc on a envie de citer toutes ces références et en même temps, c'est pas ça. Parce que tu cites Hitman, il y a des côtés immersifs, si, mais pas tant que ça, parce que l'IA est pas forcément là pour être aussi vénère, et les assassinats sont pas si ouverts que ça. Tu cites du roguelite, il y a des éléments de roguelite, mais il n'y a pas forcément ce côté die and retry, etc. Donc, tu vois, pour chacun de tous ces petits éléments, en fait, t'as à chaque fois envie de dire oui, mais... Et donc, en gros, bah, c'est Deathloop.
c'est marrant parce que, avec tout ce que tu as dit, alors moi, je l'ai acheté suite à la lecture de ton test. Je suis allé l'acheter.
Et tu ne m'en veux pas.
Bah écoute, en fait le truc c'est que je suis pas très fan à la base des Dishonored et j'ai joué juste un tout petit peu, j'ai dû jouer une heure, j'ai fait la première mission du tutoriel et c'est vraiment très compliqué. Je suis pas encore décidé en fait, mais tout ce que j'en vois et tout ce que j'en lis et tout ce que j'en entends me dit ça va être forcément cool, mais là même avec ton explication j'ai toujours pas compris. Donc si tu peux nous expliquer, alors je sais un petit peu plus parce que j'y ai joué, mais si tu peux nous expliquer, si tu dois essayer d'expliquer ce que c'est en quelques mots pour quelqu'un qui n'a jamais rien vu dessus, comment tu le décrirais finalement ?
Alors, c'est un FPS avec des combats potentiellement très nerveux et avec, avec quand même une grosse tendance à l'infiltration. Donc ça, on est dans le côté Dishonored, il n'y a pas de souci. On est en fait, pour planter un peu le décor, c'est ça qui est compliqué parce que la découverte de l'histoire est tellement intéressante que c'est forcément compliqué d'y aller sans spoiler, quoi.
Et donc, je pense que c'est plutôt la question, oui, de la mécanique de... Parce que
ouais, c'est ça.
La mécanique de retour, de boucle, de Deathloop.
Exact.
Et d'exploration, oui.
Voilà, exactement. Donc on incarne Colt qui se réveille un beau matin sur l'île de Black Reef, amnésique, et en fait il comprend qu'il est dans une boucle temporelle, qui revit la même journée encore et encore, et cette fois-ci il s'en souvient, et donc il va se mettre en tête de briser cette boucle, et il va comprendre que pour ce faire, il va devoir tuer 8 personnages, les visionnaires qui sont grosso modo des sortes de boss en fait, qui sont cachés à différents endroits sur l'île, et il va devoir essayer de comprendre comment réussir à faire ces 8 assassinats en une seule journée, en une seule boucle, sachant que une journée correspond à 4 séquences, matin, midi, après-midi et soir, donc 4 séquences de jeu, et qu'il y a 4 niveaux jouables. Donc en gros, on a 16 configurations de niveau, hein, parce que je peux jouer au niveau 1 le midi, au niveau 2 le soir, et puis etc. etc. Donc 16 configurations de niveau.
Les Quand tu dis niveau, c'est des endroits dans l'île, hein, c'est différent.
Exactement, c'est ouais. Les aires de jeu, exactement.
Oui.
C'est des aires de jeu très très ouvertes, assez vastes. Et donc en fait, l'idée, ça va être c'est un puzzle géant en fait, c'est une sorte d'enquête. C'est je vais devoir comprendre qui est où à quel moment déjà. C'est-à-dire où est Charlie, où est Fia, où est Alexis, et puis d'essayer de mettre en route une sorte de mécanique, une sorte de jeu de domino qui différents événements qui vont provoquer la présence des visionnaires à tel endroit ou tel endroit pour pouvoir vraiment faire cette boucle parfaite. C'est la boucle au sein de laquelle on arrivera à les tuer les 8 en une seule journée. Et donc en gros, il va falloir observer, chercher, fouiller, comprendre où on est, ce qu'on fait, qui a telle routine matinale, qui est comment entrer dans son niveau, etc. Et donc il y a une vraie mécanique de recherche de puzzle qui fait partie de la découverte du jeu et qui est vraiment excellente.
Et du coup, tout ce que tu racontes là, ça a l'air quand même extrêmement casse-gueule, et c'est un petit peu ce qu'on sentait dans les trailers et dans toute la com autour du jeu qui était compliqué, et on a vu, je sais pas, peut-être 5 ou 10 trailers différents, on savait toujours pas ce qu'était le jeu au bout du compte, et on comprend maintenant, parce qu'effectivement ce qu'ils essayent de faire a l'air vraiment différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, même si ça emprunte beaucoup à beaucoup de jeux. Mais c'est aussi, enfin, d'après l'impression qu'on peut avoir, c'est aussi extrêmement casse-gueule. Et la grande surprise, je crois, c'est que d'après tous les gens qui sont allés au bout, c'est pas juste sympa, c'est vraiment réussi. C'est ce que tu disais aussi dans ton test. C'est vraiment, ça fonctionne et c'est fun et c'est différent et c'est original et c'est bon, quoi.
Ouais, ça fonctionne parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, Bethesda, ils ont commencé un peu à flipper en se disant, mais on n'arrive pas du tout à faire comprendre ce que c'est que ce jeu. Et même les communiqués de presse qu'on recevait avant, tu sentais que ils étaient vraiment perdus à essayer d'expliquer ce que c'était. Et finalement, je crois que l'essayer, c'est l'adopter, j'ai envie de dire. C'est là que vraiment que tu comprends. Moi, c'est vraiment que au moment de la preview, il y a quelques semaines, que j'ai vraiment pigé, en fait, ce qu'ils essayaient de faire. Et puis même là, tu vois, j'essaie de te raconter le jeu. Je sens bien que c'est compliqué. Même quand tu as fini le jeu, etc., c'est compliqué vraiment d'expliquer à quel point il y a une sorte d'ingéniosité dans la manière dont le puzzle a été composé, en fait. Et alors, comme le dit Clémo dans le chat, d'ailleurs, effectivement, c'est un petit peu plus linéaire que ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est justement cette linéarité-là qui est quand même pas si évidente, dans un sens, parce qu'elle est très très bien cachée. Et c'est là où Arkane a été super malin, c'est que effectivement, ça reste, il y a, on sent qu'il y a un déroulé de l'aventure, même s'il y a plein d'à côté, plein de choses à faire et plein de manières d'aborder le jeu. Mais en même temps, il y a une linéarité en filigrane qui permet justement de pas être totalement perdu absolument et de rester à s'éclater, de pas être là juste à errer comme une âme en peine en disant mais comment je vais faire, quoi.
Donc il y a presque des objectifs à suivre un petit peu, même si tu peux aller faire autre chose, j'ai l'impression. Du coup, ça m'amène à une question. Est-ce qu'il y a une seule solution à ce puzzle, ou est-ce qu'on peut, je ne sais pas si tu le sais d'ailleurs, parce que c'est peut-être que tu l'as fini d'une façon, mais qu'il y en a d'autres. Est-ce que tu sais s'il y a une seule solution qu'il faut trouver, ou
alors,
si on est
sur le puzzle de l'aventure principale, j'ai vu que c'était un petit regret chez certains. Oui, il n'y a qu'une seule solution. Il y a plusieurs fins, mais il n'y a qu'une seule solution. En revanche, pour arriver à cette solution, il y a une infinité de possibilités. Et même pour parce que bon. Avant de pouvoir les tuer au sein d'une seule boucle, il va falloir réussir les assassinats des visionnaires un par un, on va dire. C'est comme ça qu'on va découvrir les preuves les plus importantes pour justement arriver à cette boucle parfaite.
Ouais. Et qui nous donne du pouvoir.
Et là, on a le côté immersive sim carrément, où effectivement, il y a plein de manières de réussir les assassinats. Des plus brutales et moins discrètes jusqu'aux plus subtiles, voire bien fourbes. Et là, ça, c'est vachement réussi.
Il y a Dany qui se réveille quand tu dis qu'on peut être fourbe. Et en plus, c'est là qu'il y a un côté un petit peu roguelite, parce que quand on tue l'un des visionnaires, et peut-être à d'autres moments aussi, on obtient des pouvoirs supplémentaires qui vont nous permettre de faciliter un petit peu la progression. Donc il y a, et on peut en plus, comme on dit, infuser certaines armes pour les garder la prochaine fois, pour les garder quand on se réveille lors de la prochaine boucle. Il y a vraiment une progression gameplay de nos compétences dans le jeu. C'est pas juste la connaissance de la boucle, de où ils sont, de comment faire pour qu'ils soient au bon endroit au bon moment. Il y a aussi au niveau du gameplay des choses qu'on gagne d'une boucle sur l'autre.
C'est là où le jeu, je trouve, excelle. En fait, moi, pourquoi il a eu 9 sur Gamekult, qui est quand même un peu le... Voilà, c'est quand même une grosse note. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur Gamekult, c'est mon deuxième. Hein. Le premier, c'était Okami, et maintenant, c'est celui-là. Donc, c'est plutôt une note rare. C'est en fait, je trouve, il y a une telle osmose à tout point de vue, c'est-à-dire le scénario, le gameplay, le level design, tout sert ce truc-là. Et en fait, je dis ça parce qu'en fait, en gros, on est dans une boucle temporelle. On n'a que 4 niveaux. Donc, on va se farcir, entre guillemets, je le dis de manière péjorative, forcément, on va se farcir ces niveaux encore et encore, quoi. Évidemment, on est dans une boucle. Donc, je vais le refaire. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'ils ont des déclinaisons, d'accord, mais je vais connaître les lieux. Au fur et à mesure, je vais les connaître de mieux en mieux. Plus je vais le refaire, plus je vais connaître que je sais que si tu passes à droite, là, je vais éviter les gardes parce qu'ils sont là le midi, ils discutent entre eux. Je les ai entendus il y a 2 heures quand j'en ai fait le passage. Et à côté de ça, ce que tu cites là, c'est effectivement, on gagne des pouvoirs, on peut se téléporter, on a un pouvoir de télékinésie bien vénère, on a un pouvoir d'invisibilité qu'on récolte sur chaque boss, comme on vient de le voir là rapidement à l'écran. Et en fait, ça, ça sert également, c'est-à-dire que je connais le level design de mieux en mieux. Mon héros, il devient de plus en plus puissant. Et en fait, cette répétitivité, parce qu'on pourrait penser que c'est de la redondance, quoi, on va tout le temps faire les mêmes trucs. Et en fait, elle va de pair avec ce côté, je suis dans une boucle temporelle et plus ça va, plus je suis balèze. Il y a le même côté dans Un jour sans fin, tu sais, où il y a Bill Murray, plus ça va, plus il arrive à perfectionner la technique de drague. C'est exactement pareil, en fait. Plus je vais le refaire le truc, je vais pas avoir d'aspect redondant. Il y a pas trop ce côté, putain, ça y est, je suis encore à Updame, il va encore falloir que j'aille faire tel truc. C'est d'où l'intérêt de la linéarité qu'il y a en filigrane que je citais tout à l'heure. Et en même temps, il y a ce côté montée en puissance du héros. Franchement, à la fin, quand tu finis, moi j'ai fait le GK Live pour Gamekult, j'ai fait un petit live d'une heure sur le jeu. Et je pense que les gens, ils devaient être un peu... Je fonçais dans tous les sens avec la téléportation, bam, bam, je me retrouvais à l'autre bout du niveau en 30 secondes, alors que la première fois que je l'ai fait, j'ai mis une heure. Et ça, franchement, c'est incomparable. C'est un feeling de ouf. Et je trouve que là, on est dans un jeu vidéo, tu vois, on a ce côté, je maîtrise le jeu, tu vois, je suis Exerve qui fait mes roulades et qui bute le boss en deux secondes. Je fais marave pendant trois plombes. D'ailleurs, Exerve, j'ai vu que tu étais là tout à l'heure, je me demande ce que tu es en train de cuisiner pendant que tu nous écoutes. Et ça, franchement, c'est une réussite, c'est la réussite du jeu, je trouve. Franchement, cette montée en puissance du héros, elle est vraiment top.
J'ai plein de questions à te poser, je vais essayer de me limiter un petit peu et puis de laisser aussi la parole à Dany et Aurélie s'ils ont des questions, mais l'une que qui me vient tout de suite, c'est que si j'ai pas été client de des immersive sims souvent et de des Dishonored, parce que j'ai pas de patience, moi je suis un gamer de base, je veux aller tabasser, ou non pas forcément tabasser, mais en même temps, tu vois, tu me dis Outer Wilds, c'est peut-être l'un de mes jeux préférés de l'histoire, mais est-ce que si on n'est pas client des jeux, je vais le dire comme ça, des jeux précédents d'Arkane, des Dishonored spécifiquement, est-ce que c'est quand même, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de pas d'arcadification, mais justement, il te donne plus de fun, l'IA exactement, est moins ça, sensible, fun. Etc. C'est plus fun.
C'est fun. T'as lâché le mot, franchement, c'est ça. Ils ont même dans le, t'as dû le voir dès le début, si t'as fait une heure, il y a dans les dialogues, dans l'ambiance, il y a un côté vraiment vraiment fun, tout simplement, quoi. Le héros est hyper cool, on dirait John McClane en mode vénère, tu vois, qu'il est là, il fait tout le temps des blagues, il se parle à lui-même, il y a plein de petites références sur l'écran, il y a plein de blagues de second degré, tout en restant dans un cadre assez sérieux et tout, mais on sent que le jeu qu'ils se sont vraiment lâchés, quoi. Et je pense que l'ambiance, en plus, du coup, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur cette osmose, quoi. L'ambiance années 60-70, elle colle tellement bien avec ça. Tu vois les ennemis masqués qui sont tout bariolés, qui se bourrent la gueule parce qu'ils savent qu'ils sont coincés là pour l'éternité, ils s'en rappellent pas, mais ils le savent, quoi. Et du coup, ils font les cons toute la journée, ils se bourrent la gueule, ils font des graffitis, ils foutent le feu au bâtiment, etc. Et il y a ce côté vraiment, vraiment, du coup, détente, quoi, entre guillemets. Et en même temps, alors, du coup, le jeu est quand même très pénalisant, faut pas non plus imaginer, voilà, il faut quand même être assez discret, un peu, mais je pense quand même que le jeu est effectivement plus abordable, sans doute, pour celles et ceux qui sont pas hyper fans des Deus Ex ou même de Dishonored, effectivement. Il y a un côté plus fun, mais il faut se méfier quand même, le jeu a vachement de répondants, surtout au début, en fait, moins t'as de pouvoir, moins t'es puissant, et donc il te marave bien. Faut comme faire il gaffe, faut quand
même. Ça a l'air très enthousiasmant, tout ça, et une petite note pour dire que effectivement la direction artistique est vraiment réussie, c'est-à-dire qu'on reprend ce qu'il montrait dans les trailers, dont on se disait, bah oui, ça c'est pour les trailers, mais en fait, ils réussissent, en tout cas sur le tout début que j'ai vu, ils réussissent à maintenir ça, et ça se sent dans tous les éléments du jeu. Si vous avez une question, c'est le moment, Aurélie ou Dany. Aurélie, je vois que tu t'es démutée, donc je te laisse parler.
Déjà, je trouve ça super cool, parce que d'habitude, ce qui se conçoit simplement s'énonce clairement, et du coup... c'est un peu punitif pour les jeux qui sont un peu compliqués à expliquer, et là ça fait plaisir de voir qu'un jeu compliqué à expliquer peut marcher et peut plaire à tout le monde. Moi, ma petite question, c'est est-ce que pour les joueurs qui sont, enfin, vous y avez un petit peu répondu juste à la fin, mais pour les joueurs qui sont pas super gamers et super hardcore, est-ce qu'il y a un niveau de difficulté différent ou
parce plus que, abordable
bah, typiquement,
ouais.
Moi je suis pas je suis pas une énorme joueuse de tous les jeux d'Arkane qui sont super difficiles ou et du coup est-ce que c'est abordable pour tout le monde ou
j'ai l'impression que c'est quand même un peu corsé hein, mais
c'est un petit peu corsé. Il faut, en fait, il faut un peu de patience, quoi. Parce que, bah, il y a quand même des phases d'infiltration. Il y a des niveaux qui sont pas simples. Là, celui qu'on vient juste de voir à l'écran, qui est le manoir d'Orsay, là, où il faut essayer de buter Alexis. Il est blindé d'ennemis. Donc, il faut quand même être assez patient, assez discret. Surtout curieux, en fait. Parce que, en fait, il y a plein de passages secrets pour arriver aux endroits, etc. Donc, il faut quand même un tout petit peu adhérer à la démarche jeu d'infiltration discret, à prendre un peu les rondes des gardes, etc. Donc, il a quand même une petite difficulté, on va dire, quoi.
Ouais.
Donc, et les ennemis sont très douloureux, alors attention.
Oui, mais voilà, c'était surtout ça. Est-ce que c'est pas punitif à mort, quoi ? C'est-à-dire que... Tu peux rien faire.
Est-ce que tu peux faire une erreur et t'en sortir ou dès que tu...
Voilà, surtout qu'ils ont ajouté une mécanique de gameplay toute bête, c'est que t'as 3 vies dans le jeu.
Ouais.
Donc si tu te fais buter, c'est pratique. Hein, c'est...
Tu peux récupérer un totem.
T'as 3 vies en fait, donc ça c'est très cool. Alors, 3 vies qui sont en plus bien, justement, parce que ça rembobine en fait. Il te renvoie ton personnage, on va dire, 2 minutes avant l'action. Sauf que c'est uniquement une manière de rembobiner, c'est pas comme dans Forza par exemple, c'est je rembobine le personnage, c'est-à-dire que l'action telle que si je suis mort en balançant une grenade et en butant 25 gars, tu vas revenir, tu vas trouver ton cadavre au milieu de 25 cadavres.
D'accord.
Donc ça c'est cool.
Donc,
parce
ça
que
ça remonte
du coup,
pas
si
le temps. C'est...
Voilà. Ouais. Et ça permet d'avancer pas mal dans le jeu. Et puis il y a quand même... Je pense l'ajout des pouvoirs, la connaissance des niveaux qui s'additionnent au fur et à mesure et qui permet quand même de rendre le jeu assez abordable sur ce point-là, quoi.
Une autre question très simple, c'est je pense oui ou non, Johan qui nous demande dans la chatroom, est-ce que, comme dans Outer Wilds, quand on a compris le jeu, est-ce qu'on peut le finir d'un coup, si on le relance avec zéro pouvoir, est-ce qu'on peut tout finir en un run parce qu'on a compris toutes les mécaniques, enfin toutes les timings et les endroits où sont les ennemis, ou quand même, c'est, enfin, si on est très 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 bon, hein, bien sûr.
Si tu veux faire un speedrun de Deathloop, je crois, j'ai vu ça sur Twitter, un gars d'Arkane qui disait que le record était à moins d'une heure, genre 57 minutes de
speedrun. Ah d'accord, quand même.
Donc, parce que je pense notamment le début, comme là où tu es, en fait, qui est un peu inévitable comme passage. Donc même en allant vite, je pense que de toute façon, tu es obligé de faire cette boucle, ne serait-ce que pour avoir le premier pouvoir, qui est le pouvoir de pouvoir conserver tes objets et de faire la boucle comme il faut.
Mais tu peux le faire en une boucle, quoi. Donc,
je pense qu'il peut se faire en une boucle. Je suis en train de réfléchir en fait. Est-ce qu'il y a pas un code de bunker? Si, je pense qu'il y a quand même un ou deux codes de bunker qui sont forcément à trouver quelque part. Mais encore une fois, ils sont peut-être faciles. Une fois que tu sais où ils sont, je pense que oui. Voilà, en deux ou trois boucles, à mon avis, tu boucleras le jeu.
D'accord.
Oh, oui. Mais non, mais attends, game culte. Ah, seal of quality.
Clairement, clairement. Ok, super. Écoute, c'est encore une fois très enthousiasmant et on n'a pas beaucoup parlé de la relation avec Juliana et on n'a même pas parlé du multiplayer, du multijoueur où on peut envahir la partie d'un autre en tant que Juliana, donc l'un des visionnaires, et donc essayer de tuer l'autre personne si la personne joue en ligne. C'est un aspect que tu as pu essayer, t'étais en preview, en test, donc c'est fun ou c'est gadget?
Cette fameuse Juliana, effectivement, c'est la némésie de Colt, et elle débarque. Alors moi, au début, j'ai fini le jeu en fait offline, et les serveurs n'étaient pas encore ouverts, parce qu'on avait le jeu en avance. Et il y a une Juliana guidée par l'IA, donc même si vous êtes offline, vous la verrez, et elle viendra vous embêter. En gros, elle débarque dans le niveau, elle bloque les tunnels d'accès, donc vous ne pouvez pas vous échapper du niveau, vous n'avez aucune autre solution que de la buter, ou qu'elle vous bute. Sachant qu'elle n'a qu'une vie, elle, contrairement à vous qui en avez plusieurs, et donc sinon effectivement ça, c'est l'accès à la partie multijoueur où, comme tu viens de l'expliquer, on envahit, où on se fait envahir comme dans Dark Souls, comme on voyait aussi à l'époque dans Watch Dogs où on se faisait pirater, etc. C'est hyper fun. Alors moi, du coup, ce qui est cool, c'est que je l'ai découvert à la fin du jeu. J'avais fini le jeu, en fait, quand j'ai pu commencer à incarner Juliana. Et à l'inverse, c'était le moment où Bethesda avait commencé à diffuser les clés aux différents reviewers. Et donc, j'étais face à un peu face à des noobs. Et à l'inverse, moi, j'avais une très bonne connaissance des niveaux. Et j'avoue que c'était tout à fait plaisant. C'est compliqué parce que t'as quand même des gars qui ont 3 vies face à toi. Donc, il faut quand même les tuer 3 fois de suite. Sachant que toi, ta vie, elle remonte pas. Il faut que t'apprennes à trouver ou te soigner, etc. Mais c'est hyper fun. Franchement, c'est très, très cool. Ce côté chat et souris est vraiment hyper bien fichu, quoi.
Ça a l'air d'être un sans faute hein, de la part d'Arkane. Moi, du coup, ça m'a donné envie de continuer à essayer. On verra, on en parlera sans doute un petit peu plus à l'avenir. Merci beaucoup pour cette longue explication, Thomas, qui était nécessaire pour ce jeu, je pense. Ça sent bon, hein, tout ça.
La cuisine d'Exerve, ça, alors.
C'est possible. Justement, Exerve nous parlait de Tales of Arise la semaine dernière. Et quand je dis ça sent bon, il avait beaucoup aimé, et moi du coup il m'a convaincu de me l'acheter, et on va peut-être en parler dans une seconde. Et là donc c'est également un jeu qui sent très très bon, hein, qui a l'air excellent, et il y en a d'autres qu'on va évoquer encore maintenant, avant de parler des petites news en plus, mais c'est impossible de parler de tout, il y a tellement de choses qui sortent, qui sont sorties là, ou qui sortent dans les jours à venir, dans les deux jours à venir, depuis la semaine dernière. Des jeux notables, Life is Strange True Colors, Eastward, Lost in Random, Aragami 2 qui sort dans deux jours et qui sera sur le Game Pass, I Am Fish qui est un jeu où on joue un poisson, c'est un peu bizarre mais c'est déjà sorti et c'est aussi je crois dans le Game Pass, et The Artful Escape dont j'aimerais vous parler également qui est aussi dans le Game Pass, qui est vraiment vraiment notable. Et alors c'est un jeu un peu plus ancien, mais Aurélie va nous parler un peu de Rocky, avec le petit tréma sur le O, peut-être que c'est un nom nordique. Mais avant ça, je veux juste qu'on revienne sur Tales of Arise, parce que les Tales of, c'est un petit peu une des séries fétiches de Dany. Après en avoir parlé la semaine dernière, comme je disais, on en a parlé en long, en large et en travers, donc on va pas refaire toute la discussion, mais moi je l'ai pris, j'ai quelques petits trucs à dire. Dany, tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement, ou juste au début de l'émission, que du coup t'étais un petit peu énervé contre Tales of. Qu'est-ce qui se passe?
Déçu. En fait, le jeu en lui-même est nickel. Hein. Il est, je pense que c'est un très beau up en termes de gameplay, de graphisme, de visuel, par rapport et d'écriture, je pense, et d'ambiance par rapport à Tales of Berseria, qui était le dernier, je crois, qui était déjà très très fun. Pour moi, la grosse déception, et j'étais passé à côté à l'époque, mais ça avait été annoncé depuis des mois, c'est l'absence de mode multi, en fait, qui pour moi était partie de plaisir du jeu. C'est très très sympa, et ma compagne adorant les Tales aussi, on jouait tous les deux, tu vois. Et donc elle faisait les phases de dialogue longues et chiantes, elle trouvait des trucs cachés, des trucs, et moi j'étais là pour faire les trucs débiles et faire des gros dégâts.
D'accord, donc c'est pour ça que t'es déçu, je comprends. Vous pouvez vous passer la manette.
C'est très rare dans un Tales, en fait. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, beaucoup. Il y avait celui sur... Tales of Abyss sur DS ou 3DS, je me souviens plus. Et à part ça, je me souviens même pas de quand il y en a eu un qui était sans multi. Donc, dommage.
Je comprends. Moi, du coup, je vais aussi parler des choses qui m'ont un petit peu déçu. À vrai dire, pas vraiment, mais je veux le mentionner. Il y a sur Tales of, et visiblement, c'est pas le premier sur celui-là, mais c'est pas le premier, un boost d'XP qu'on peut acheter. Et c'est vrai que dans le jeu, il y a... moi, je joue en difficulté normale. J'ai déjà, quand même, pour quelqu'un qui a 2 enfants, j'ai déjà plus d'une dizaine d'heures sur le jeu. Et je l'ai acheté la semaine dernière, donc ça veut dire vraiment que je l'ai beaucoup aimé, hein. J'ai passé énormément de temps dessus déjà, donc c'est pas une critique du jeu, mais j'ai été surpris parce que le jeu devient relativement facile sur les monstres classiques, et il y a un vrai énorme pic de difficulté sur les boss qui sont hyper hyper compliqués par rapport au jeu normal, entre guillemets. Toutes les 2 heures, on a un truc qui est quasiment, pas impossible, mais enfin qui est vraiment super dur, et on a ce petit boost d'XP avec un petit magasin en jeu qu'on peut qui nous est présenté régulièrement, et personne n'en a parlé, aucune des reviews n'en a parlé. Mais alors que, et là c'est moi qui, je ne sais pas si encore une fois je taquine un petit peu ou ça, si ça m'énerve vraiment, mais quand c'est sur Assassin's Creed, tout le monde en fait des pataquès et c'est un scandale pas possible. Et là, parce que c'est un très bon JRPG, bah, on n'en parle même pas. Donc ça m'a un petit peu frustré, mais surtout parce que pour moi, ayant beaucoup joué à Assassin's Creed, c'est pas nécessaire d'avoir le boost d'XP, c'est un truc qu'on peut prendre si on veut, et de la même manière sur ce Tales of, c'est un truc qu'on peut prendre si on veut, mais j'en vois pas du tout la nécessité. Donc ça m'a ce différence de traitement m'a un petit peu frustré. À côté de ça, le jeu est quand même très très JRPG et très très japonais, c'est assez classique. Moi j'ai trouvé, j'en suis à ce moment en ce moment au deuxième royaume, c'est quand même pas hyper subtil quoi. Les ils sont méchants, ils esclavagisent un peuple et donc tous les esclaves ils sont vraiment malheureux et les méchants ils tapent des enfants et enfin bon, j'ai pas trouvé ça très très subtil. Ça change peut-être un petit peu ensuite, mais à côté de ça, le jeu est méga fun et ce qui devient parfois un petit peu laborieux avec les jeux au tour par tour, si on n'est pas très fan de ce genre de choses, bah là, tous les combats sont fun et on n'a qu'une envie, c'est d'arriver au combat suivant pour essayer de faire des combos de maîtriser un petit peu plus le truc qui est assez original, le système de combat qui est assez original. Est vraiment plaisant quoi. Exerve le comparait à un jeu de combat la semaine dernière et c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça, peut-être un petit peu moins super précis parce qu'il faut faire attention en fait au placement et à ce genre de choses, mais oui c'est très très fun et moi je prends énormément de plaisir, j'ai envie d'aller au bout alors que 30 heures je les ai pas les 30 heures et j'ai quand même envie d'aller au bout. Dany, c'est un Tales of un bon, c'est ce qu'on dit généralement, j'imagine que t'en es satisfait.
C'est un bon Tales of, je pense. Ouais, au niveau du scénario, de l'écriture, les Tales of m'ont jamais vraiment enthousiasmé. Tu vois, c'est pas la révélation du millénaire en disant oh, c'est incroyable, mais qu'est-ce qui va se passer après. C'est très classique, comme tu l'as dit, c'est très manichéen. Les méchants sont méchants, les gentils. Bon, bah écoute, au moins jusque là où on en est arrivé. Mais les combats, par contre, c'est ce qui fait la force des Tales. Et ils sont vraiment très dynamiques, très agréables. Et j'ai pas écouté la comparaison d'Exerve la semaine dernière, mais j'adhère totalement. Hein, honnêtement, tu mets le système de combat dans un Street of Rage 4, par exemple, dont on parlait il y a quelques mois. Ça pourrait faire un bon jeu. Donc, c'est un bon jeu d'action mêlé à un JRPG sympa, sans plus.
Ouais. Ah bah écoute, je m'y attendais pas, mais ça me réconcilie un petit peu avec les JRPG qui ont fait une bonne partie de ma jeunesse, donc je suis très reconnaissant. Et tu dis sympa sans plus, moi je trouve qu'il est quand même, il y a toutes les petites scènes de discussion, je les passe pas moi, je les écoute toutes.
Les skits, ça c'est aussi une des forces des Tales en général, hein, et dans tous les Tales il y a ces skits qui donnent un peu de profondeur au personnage, etc. Et moi ce qui m'embête, c'est comme je suis un peu impatient et que j'ai besoin de me défouler,
tu cliques.
C'est, des fois je ressens le besoin de les passer et ils sont pas toujours, dans les anciens notamment, c'était pas toujours super indispensable d'avoir ces skills. Ouais.
J'ai juste une question avant qu'on passe à la chose suivante. Le personnage principal, il peut faire des attaques de feu, mais les attaques de feu, elles interrompent le compteur de combo. Et souvent, en tout cas, les pics de difficulté dont je parlais, c'est des pics de difficulté où les boss sont plus sensibles au feu. Donc j'ai l'impression qu'il faut faire tout le temps des attaques de feu, mais du coup, on n'utilise pas le système de combat avec enchaînement infini tel qu'on l'a appris dans les trucs précédents. Dany, est-ce qu'il faut du coup faire que des attaques de feu sur ces boss pour vraiment les passer, et c'est moi qui n'ai pas compris, ou est-ce que j'ai pas compris un truc sur ces boss et en fait ils sont pas si durs, ou qu'est-ce que tu, toi en tant qu'expert, tu peux me dire ce que je dois faire, ou c'est juste qu'ils sont effectivement plus durs?
Non, ils sont effectivement plus durs. Ils sont effectivement plus durs. Je doute que t'aies loupé un truc dans la façon de jouer ou de se battre.
Et tu fais plein d'attaques de feu et tu te focalises moins sur les combos contre eux, ou non, tu fais quand même les combos?
Oh, moi je fais tout, oui.
D'accord,
je fais la totale. Je joue du mieux que je peux. Et voilà. Ok. Mais t'es arrivé à quel boss? Parce que.
Je veux pas spoiler.
On a passé la limace.
Ah, bah juste pile pareil. et vraiment, elle n'est pas facile.
Hein. Je joue en modéré aussi avec ma compagne.
Ah, bah, moi, je joue en normal. D'accord. Toi, tu joues en difficulté 2. Ah, mais j'allais dire, ah, mais nous sommes exactement aussi bons l'un que l'autre. Tu es mon rival et mon égal. En fait, non, tu joues beaucoup plus dur. Donc, ok.
Et elle est chaude, la limace. Ouais, quand tu roules sur tout ce qui se passe avant et que tu arrives sur le boss et que tu es, ah, ouais, quand même, j'ai perdu une fois. Mince.
Une fois. J'ai perdu 15 fois contre la limace. Bon, ok.
Ouais, mais c'est l'habitude des tailles.
C'est un peu ça, je pense. Oui, c'est voilà. On va dire ça. C'est la bonne excuse. Très bien. Très bien. Eh bien, écoute, Aurélie, j'ai très hâte que tu nous expliques un petit peu à quoi tu joues en ce moment. Tu me disais, tu es surtout sur des jeux un petit peu plus anciens. Hein. Tu fais ton backlog, toi, si j'ai bien compris.
Ouais. C'est un peu compliqué d'arriver à tout suivre. Alors, j'attends plein de jeux qui vont bientôt arriver. Mais on échangeait un petit peu au studio. Et puis, j'ai une de mes collègues qui était sur Rocky, donc tu parlais tout à l'heure, là, et ça m'a donné envie de l'essayer parce que je ne l'avais pas du tout testé. Et puis, j'aime bien aller essayer plein de jeux indés pour... je trouve que c'est rafraîchissant. Et puis, c'est des jeux qui, généralement, sont un petit peu plus courts. Et donc, là, je suis sur Steam, sur Rocky, que j'ai commencé il y a quelques jours. Et je trouve ça vraiment très sympa. C'est un jeu qui parle de folklore scandinave, qui parle de famille...
C'est God of War. Voilà.
Ouais, exactement. Alors, on inverse un peu les rôles du coup. C'est les enfants là qui mènent l'histoire. Et c'est l'histoire. C'est un espèce de. C'est une quête pour sauver un petit frère qui a été enlevé par un monstre assez sombre. Et du coup, ça peut autant parler à des enfants qu'à des parents. C'est vraiment un jeu super sympa.
C'est quoi? C'est un jeu d'aventure, de plateforme? On voit les graphismes très stylisés, assez simples. C'est quel style de jeu, en fait?
C'est vrai que c'est assez dépouillé, c'est vachement moderne. C'est un retour vers le point and click d'antan. Moi, je suis assez nostalgique de tous ces jeux-là, où je jouais au Chevalier de Baphomet, même à tous les jeux Lucas, etc. Donc, ça ressemble un petit peu à tout ça. On visite des milieux naturels, on est à la recherche de monstres qu'on doit rallier à sa cause pour pouvoir aller défier une grande méchante qui s'appelle la Lady Corbeau, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis... on doit résoudre plein d'énigmes pour pouvoir progresser jusqu'à son château. C'est vraiment super poétique. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bande son, en fait. Il n'y a que de la musique. Donc, du coup, c'est assez reposant aussi. Ça fait du bien entre midi et deux quand on voit que des trucs un peu frénétiques, là, de se poser un peu sur quelque chose comme ça. Et du coup, ça fait du bien. C'est le petit type de jeu. Je te parlais aussi de Arise, The Simple Story, du studio Piccolo, là, que j'ai commencé aussi.
Alors, pas Tales of Arise, mais Arise, The Simple Story.
Non. Ouais, c'est un jeu qui date de l'année dernière. C'est des jeux comme ça, comme Flowers, comme Journey, Unravel, Gris, Monument Valley. C'est des jeux qui font du bien. Alors, c'est peut-être des jeux qui sont un petit peu plus... comment dire, pas féminin, mais qui sont des jeux faciles, mais ça repose et c'est agréable, ça fait du bien aussi. Donc, c'est chouette de voir que le jeu vidéo peut proposer plein d'expériences différentes, des expériences plus frénétiques et puis des expériences plus reposantes comme ce type de jeu-là.
Bah écoute, je vais du coup te parler d'un jeu que j'ai commencé il y a quelques jours de ça, qui va beaucoup te parler, j'imagine. Ça s'appelle The Artful Escape. Et quand on parle de jeu reposant, à vrai dire, je ne sais même pas s'il est forcément reposant, mais c'est un jeu super bizarre, super poétique, hyper beau et un peu psychédélique, même très psychédélique, je dirais. C'est un jeu qui, comme je le disais, est sur Game Pass, sur PC et Steam, et sur Xbox, évidemment. Et donc, on joue un musicien, un jeune musicien, qui est dans l'ombre de son oncle, qui était musicien très célèbre, et il vit dans la ville natale de ce musicien. Et c'est l'année de la... il célèbre la mort ou la sortie de l'album de cet oncle-là. Et donc, lui, il est un petit peu complètement écrasé par cet héritage. Et... il se cherche. Et on est dans un ensemble décors sublimes et musique sympa. Et c'est presque, c'est presque un walking simulator, mais vu de côté. C'est pas vraiment un jeu en 3D comme on en a souvent, c'est un walking simulator vu de côté où on va explorer, parler à des personnages un petit peu fantastiques et jouer de la musique, mais pas jouer de la musique genre ah on a un super simulateur de guitare comme dans The Last of Us 2, il faut jouer exactement comme il faut, non, on va appuyer sur un bouton pour faire de la musique et ça va juste faire de la musique cool. On a parfois un petit truc genre vous connaissez Simon Says, où on, il faut répéter les morceaux de musique, enfin les boutons qu'on nous dit, sur lesquels on nous dit d'appuyer, mais c'est tout, il n'y a pas vraiment plus de complexité que ça, et tout le plaisir du jeu vient de la beauté du truc, mais de la beauté pas juste graphique, même si là, au niveau graphique il y a des moments qui sont incroyables, mais aussi de la beauté de l'expérience. On a des, la musique qui est super sympa, quand on appuie sur le bouton ça fait on est à la guitare électrique et puis on shred sur la guitare électrique comme un gratteux de base. Mais en même temps, le gamin a des sortes d'expériences psychédéliques complètement folles dans lesquelles on voyage assez littéralement. Et c'est bizarre, beau, comme je le disais, poétique. Et j'ai trouvé ça hyper, hyper intrigant, original. Il y a des moments où on a juste le sourire, quoi. C'est le genre de jeu que j'ai jamais vu et qui est plaisant, drôle, hyper bien écrit. Le jeu d'acteur est vraiment bon. C'est pas très long. Alors moi, j'en suis au tiers, je crois. Il doit faire 4-5 heures, quelque chose comme ça. Et encore une fois, il y a très très peu de jeux, mais c'est de jeux de gameplay, mais c'est une expérience vraiment plaisante que je recommande. Et en plus, il est sur le Game Pass. Donc, si vous êtes abonné au Game Pass, il y a pas de raison de se priver. The Artful Escape.
Ça a l'air super cool, en tout cas. La DA est complètement folle. On me l'a recommandé et c'est vrai que ça, c'est hyper tentant. Là. Mais depuis tout à l'heure, là, tu nous emmènes du Rocky Arise et tout. Les DA sont super belles et... Et je trouve ça cool que justement, voilà, à côté de trucs genre comme Deathloop ou plein, voilà, des trucs tonitruants, où tu, voilà, à côté de ça, on est aujourd'hui une scène hyper active avec voilà, des expériences de jeu qui explorent d'autres trucs, qui explorent le jeu vidéo aussi d'une autre manière, comme un média à part entière, quoi, et qui osent aller là-dessus. Je trouve que c'est des expériences qui font vachement de bien aux médias et qui sont cool à découvrir, quoi.
Je suis assez... C'est pour ça que moi, je suis assez frustré quand il y a des gens qui vont dire « Oh, le jeu vidéo, c'est que des suites, c'est que des remakes, les grands développeurs ne prennent aucun risque. » Alors oui, évidemment, quand tu vas mettre 150 millions dans un jeu, c'est sûr que tu vas pas forcément faire un truc hyper, comment dire, expérimental, que tu sais pas si... Tu vas essayer de parler au plus grand monde possible, tu vas essayer de faire un truc dont tu as... un petit peu, tu mets un petit peu plus les billes de ton côté, on va dire. Mais le jeu vidéo, c'est pas que les gros triple A de des studios Sony et de Activision Blizzard et de Ubisoft et de voilà et de ces gros studios. Il y a énorme, tout un panel, comme je le dis quasiment à chaque épisode maintenant, il y a tout un panel de jeux. Là, on parle de petites expériences indé. Entre parenthèses, The Artful Escape, c'est Annapurna, hein. Donc forcément, c'est bon quand c'est Annapurna qui édite.
Enfin, ils ont fait Florence, alors on va y aller mollo quand même. Oui.
Je ne l'avais pas fait celui-là. D'une manière générale, c'est quand même très bon. Mais je veux dire, il y a aussi, c'est pas que des mini-indés qui font des trucs hyper artistiques ou poétiques. Il y a tout un panel, il y a plein de trucs différents dans le jeu vidéo. Et oui, si tu veux te focaliser sur les gros AAA qui sont un petit peu classiques ou qui sont des franchises annuelles ou qui se reposent sur du Marvel ou ce genre de choses, c'est sûr que tu vas les trouver. Mais réduire le jeu vidéo à ça, c'est une grave erreur. Pour moi, il y a la place pour tout le monde. Et ces jeux-là peuvent être hyper cool aussi et souvent le sont. D'ailleurs, on en parle souvent, et il y a aussi à trouver de toutes les tailles, de tous les goûts. Vraiment, on a, comme je le dis souvent, on n'a jamais eu une meilleure période pour le jeu vidéo. C'est fou tout ce qu'on peut trouver dans le jeu vidéo, tout ce qui est toute l'inventivité, tout l'art qu'on trouve dans le jeu vidéo à tous les niveaux. Donc, et même une grosse production comme
hyper abordable en plus.
Ouais.
C'est devenu des jeux hyper abordables financièrement et même voilà
à tous les sens du terme.
Voilà, dans tous les sens du terme, même sur ton téléphone, sur ta Switch, tu parles du Game Pass, tu vois, il y a tellement de moyens aujourd'hui d'accéder facilement pour pas cher parfois. Moi, pour GameCube, je me suis un peu spécialisé, j'ai une rubrique un peu de pub sur le jeu mobile, par exemple, et tu vois, c'est typiquement le genre de jeu que j'adore mettre en avant parce que justement, je trouve. Sur mobile, il y a une scène d'une créativité folle qui essaye plein de trucs et pour 2,99€, tu te retrouves avec voilà, une parenthèse de 2, 3, 4 heures avec des trucs hyper originaux, parfois développés par un mec, parfois développés par une meuf, parfois développés par 15 personnes. Et on a quand même effectivement aujourd'hui la chance d'avoir une scène hyper variée. Je pense même les développeurs et les développeuses ont accès à des outils qui permettent également plus facilement créer des trucs qui donnent vie à leurs univers et à leur direction artistique. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi.
Et c'est marrant parce que cette année, tous les AAA sont en train d'être décalés à 2022, ce qui fait que 2022 va être complètement fou, comme on le dit déjà depuis quelques semaines. Mais du coup, 2021, c'est un petit peu l'année des indés, quoi. Parce que, ou des double A, on va dire, ou ce genre de truc. C'est surtout ça qu'on voit. Et chaque semaine, chaque mois, il y a un jeu qui n'aurait peut-être pas eu autant de couverture une autre année qui là est le jeu du moment et auquel tout le monde fait attention. Donc bref, très très cool tout ça. Eh bien écoutez, on va conclure avec quelques news sur lesquelles on va passer un petit peu plus rapidement. D'abord, des news sur les systèmes et les systèmes d'exploitation. Nintendo a baissé le prix de la Switch. Alors là, je vous avoue que je comprends pas très bien. Ils en vendent tellement, c'est peut-être pour harmoniser les tarifs avec l'arrivée de la Switch OLED dans pas longtemps. Mais ils ont baissé de 30€ le prix de la Switch, uniquement en Europe et en Asie, je crois, en tout cas en Europe, et pas aux États-Unis. Et du coup, aujourd'hui, la Switch coûte... la Switch Lite était à 220, la Switch à 300, un petit peu moins même, et l'OLED à 350. C'est surprenant parce que je me suis dit, pourquoi baisser le prix s'ils en vendent tellement, et on sait qu'ils en vendent tellement. Bon, ils ont aussi décidé de nous surprendre au niveau des fonctionnalités, puisqu'ils ont ajouté la possibilité de connecter des écouteurs Bluetooth, c'est sorti de nulle part et on peut désormais, avec une mise à jour du système, connecter des écouteurs Bluetooth à la Switch. Alors, on est limité à 2 Joy-Con quand on a les écouteurs activés. A priori, si on a les écouteurs, c'est qu'on joue seul, donc c'est pas un problème. Mais vraiment, c'est un truc que demandait tout le monde depuis la sortie de la console et c'est arrivé comme ça, sans crier gare. Donc, on était tous contents, évidemment. Au niveau des OS, on a aussi la PlayStation 5 qui a lancé sa mise à jour, sa deuxième grosse mise à jour qui fait plusieurs choses, notamment le fait de pouvoir installer et jouer à des jeux depuis le port SSD inclus à la console. Donc vous pouvez aller acheter des SSD pour augmenter le stockage de votre console. Ah bah non, vous pouvez plus parce que ils sont tous en rupture de stock absolument partout. Donc si vous en trouvez un, vous pouvez. Il y a aussi des trucs qui étaient complètement débiles, genre le partage des jeux PS4, PS5. Maintenant, ils seront affichés comme deux jeux différents au lieu de devoir aller dans les menus pour passer de l'un à l'autre. Enfin bon, et ce genre de choses, donc ça c'est plutôt cool. Sur Windows, on peut désormais streamer les jeux Game Pass depuis l'application Xbox. On pouvait déjà le faire depuis le site web de Xbox, mais maintenant on peut aussi le faire depuis l'application Xbox, donc le streaming commence à arriver partout. Moi, j'attends qu'il se débloque enfin sur Xbox, parce que plus besoin d'installer les jeux pour les essayer, les dizaines de jeux du Game Pass, mais on pourra simplement les essayer en streamant immédiatement, ça sera cool, et puis s'il nous plaît, on peut l'installer. Donc voilà pour les news des OS, si vous avez quelque chose à dire là-dessus, vous me dites, et puis sinon, on continue avec d'autres news, le rapid fire des news. Dany, je vois que tu t'es démuté, donc je sais pas.
Si non, rien de spécial.
D'accord. Bon,
c'est bonnes choses, mais bon, rien
d'incroyable.
Super majeur qui changera ma vie de joueur, disons.
Deltarune, le chapiteur 2 de Deltarune arrive dans 2 jours. Et Deltarune, évidemment, la suite de Undertale. Et alors, on sait pas s'il sera payant. Le premier chapitre était gratuit, mais on sait pas s'il sera payant. En tout cas, il arrive cette semaine. C'est demain, je crois, vendredi. Unpacking arrive le 2 novembre. Je vous fais un petit peu les dates. Hein. Unpacking arrive le 2 novembre. Enfin, Dany, réponds à ton téléphone. Je pense que...
La pizza est arrivée.
Voilà, ça c'est va ça. Être ça.
On a eu des petites previews de Sifu sur différents sites. Là, je vais aller sur Gamekult. Des petites previews de Sifu qui arrivent en 2022. Vous savez, c'est ce jeu de... c'est ceux qui ont fait Absolver, je ne me souviens plus du nom, Slow Clap, voilà. Et ils ont confirmé, vous savez, c'est ce jeu un petit peu kung-fu, hyper sec, hyper péchu, et on a eu la confirmation que quand on vieillit dans le jeu, pour ceux qui se souviennent de cette mécanique, ça influence le gameplay. Donc on sera peut-être un peu plus lent, mais on aura plus de résistance, ce genre de choses, ou le contraire, ou les deux. En tout cas, la mécanique de vieillissement influence le gameplay, et le jeu a l'air quand même assez cool. On l'attend en 2022. On a également un nouveau trailer pour Metroid Dread. Il faut pas oublier que Metroid Dread arrive bientôt, et je pense que ça y a beaucoup de gens qui sont excités de la voir. On a une date pour l'accès anticipé de Darkest Dungeon 2 le 26 octobre. C'est pas un jeu pour moi, mais il a ses fans, c'est trop déprimant en fait. Et 26 octobre, c'est le début de l'hiver plus ou moins ici en Finlande. Je peux vous dire que le Darkest Dungeon, c'est en dehors de chez moi en fait, c'est tout noir tout le temps. Je ne suis pas vraiment prêt à en rajouter dans les jeux en plus. Il y a Asterigos, qui est un jeu qui doit arriver l'année prochaine, hein, en 2022, sur PlayStation 4 et PC, qui m'a intrigué parce que c'est un jeu dans l'univers mythologique grec. Et je me suis dit, attends, alors Assassin's Creed Odyssey, on en a eu 12 000 des jeux sur ce thème. Et pourtant, en regardant le trailer, j'ai été intrigué. Ça s'appelle Asterigos. Et si vous êtes curieux de ce genre d'environnement encore, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil. Ça pourrait être intéressant. C'est un jeu d'action, d'action-aventure à la troisième personne. Donc on est vraiment dans la veine de Immortals Phoenix Rising, ce genre de choses. Mais... bon, ça pourrait être intéressant. Moi, il m'a tapé dans l'œil. Un autre jeu qui m'a tapé dans l'œil, style très différent, c'est Shashin Go. Est-ce que vous savez ce que c'est en japonais Shashin? Est-ce que vous avez suivi vos cours de japonais à l'école?
Photo.
Photo, très bien, très bien. Dany sait. C'est un jeu pour apprendre le japonais en prenant des photos. Alors, c'est un jeu qui est en développement, hein, qui n'est pas encore sorti, je crois, et qui est en early access, ou peut-être qu'il est déjà sorti, sur Steam. Et on est dans un petit quartier japonais, et on peut prendre des photos de choses, et ça nous dit le nom de la chose. Et ensuite, si on veut, on a des challenges, ils nous disent le nom en japonais, hein, en hiragana, et on doit trouver l'objet en question et prendre une photo. C'est tout mignon, c'est tout petit. Alors, c'est pas vraiment pour apprendre le japonais, c'est pour se faire un vocabulaire de japonais, mais c'est sympathique.
Donc climatiseur, tu l'utilises pas super des masses, quoi. C'est sûr que c'est pas le truc le plus important dans ta vie quand tu vas là-bas, quoi.
Bon, après il y a Combini, Jitensha, tu vois, il y a des trucs, qui sont importants aussi quand même. Bon, je pense pas que c'est comme ça que vous apprendrez le japonais, mais ça a l'air mignon. Et puis, enfin, on a appris que Spider-Man allait arriver dans Marvel's Avengers. Donc, c'est un petit peu cette année, comme promis, avant la fin de l'année. C'est le dernier espoir, peut-être, pour Marvel's Avengers, pour beaucoup de gens. Possiblement pour moi aussi, on verra. Mais il arrive. Et au niveau des retards, on a Battlefield 2042 qui a été retardé d'un mois, il sortira en novembre. Rocksmith Plus qui a été retardé et on ne sait pas quand il va sortir. Alors c'est un jeu qui est censé sortir bientôt. Vous savez, c'est le jeu qui nous permet d'apprendre à jouer de la musique de Ubisoft, qui est le successeur de Rocksmith, qui est un service. Et ben là, il va sortir dans plus longtemps, dans longtemps. Dying Light 2 a été aussi repoussé au 4 février 2022. Et si on veut voir les suites, pour l'année prochaine, il est possible que Call of Duty soit une suite de Modern Warfare, celui de 2019, donc on revient dans l'époque moderne. Bon, ça fait un paquet de news, hein. Il y a des jeux qui vous intéressent dans tout ça, ou c'est des trucs qui ne parlent qu'à moi, les histoires de photos de japonais, de unpacking et de sortir les choses de nos cartons de déménagement? On parlait de jeux indés, hein. Là on est pile dedans.
Bah, unpacking, pour moi, c'est une monstruosité, parce que déjà, ça me saoule de ranger chez moi et de déménager. Donc, alors, faire ça dans un jeu, mais c'est ignoble.
Peut-être qu'il faudra... si on fait un pari un jour, encore une fois, ça ne sera pas un McDo, mais il faudra que l'un de nous joue à un jeu que l'autre a choisi. Et moi, je choisirais unpacking si je gagne.
Non, moi, le jeu des photos pour apprendre le japonais, ça me va très bien. Si tu me, si tu me dis d'y jouer, je le ferai avec plaisir, ça a l'air sympa. Ouais.
Aurélie, alors, tu voulais ajouter quelque chose, oui?
Non, je suis passée à travers de pas mal de ce que toi t'as relevé. Moi, j'attends plutôt Kena, parce que j'ai une petite fille de 10 ans et j'ai envie de jouer avec elle. Sable, Dordogne, Somerville, plein de jeux comme ça. Et puis Elden Ring, mais c'est pour plus tard. Mais effectivement, ça, l'année prochaine, tard, ça, va être assez dingo, hein.
C'est
donc
sûr.
Il faut donner de la tête, en fait, faut arrêter.
mais Kena, c'est dans une semaine ou deux, non? Ça arrive.
Même pas, cinq jours.
Une semaine, ouais.
Mardi prochain, je crois.
Mardi prochain. On a eu un petit peu peur parce qu'on n'avait pas de nouvelles et ils viennent de donner des nouvelles hier. Donc, normalement, ça sera bon.
Ah, ben, j'ai pas vu. Il disait quoi?
Ah, simplement un petit feature sur je sais plus quoi du jeu. Mais s'ils continuent à communiquer, je pense que c'est qu'il sort la semaine prochaine. Sinon, ils nous préviendraient, là, je pense.
Ok, cool.
Donc Kena la semaine prochaine. Gros point d'interrogation quand même sur ce jeu, hein. On n'en sait pas grand chose, il n'y a pas eu de preview hands-on. Il serait pas impossible
Très bon
que... Ouais, parfois c'est un peu... Alors il sera certainement beau, hein, mais bon, on verra. On n'aura plus beaucoup à attendre. Et puis enfin, on conclut avec le fait que justement, on parlait de Activision Blizzard il y a une seconde. Nouveau rebondissement, ou même pas rebondissement, mais suite de l'affaire de harcèlement qui a éclaté cet été. Aujourd'hui, le groupe Better ABK, qui est un groupe d'employés qui ne s'appelle pas syndicat parce que ça leur fait trop peur aux Américains, mais s'est uni avec un syndicat, un vrai, pour le coup, pour intenter un procès à Activision Blizzard, les accusant de refuser de casser les efforts de regroupement des employés, en gros c'est du union busting, de faire en sorte qu'ils ne puissent pas se regrouper et de les intimider pour qu'ils ne s'expriment pas. Enfin, il y a tout un tas de choses vraiment pas jojo. Donc ça continue toute cette histoire et donc il y a, comme je le disais, ce procès qui a été lancé par Better ABK et Code CWA, si vous voulez le nom des organismes, et on verra ce que ça donne. Mais il y a une vraie, en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que selon eux, Activision Blizzard a vraiment tenté de, on va dire, d'intimider ou en tout cas de réduire au silence les employés qui communiquaient sur ces problèmes et qui communiquaient des informations comme les salaires, la manière dont ils sont traités, ce genre de choses, des informations que Activision Blizzard ne veut pas qu'elle soit rendue publique. Et ce dont, pourquoi ils se battent spécifiquement, c'est l'arbitration. Vous savez que l'arbitration, c'est un moyen d'éviter le passage par les tribunaux. Quand on met dans le contrat, les désaccords entre nous, avec les employés, seront jugés par arbitration, qui sont en fait, en dehors des tribunaux, une sorte de jugement, mais privé. Et ça, évidemment, on sait que c'est pas forcément... Ça peut être avoir des influences d'ici ou de là. Et la question de l'arbitration est légalement un petit peu discutée. En tout cas, le procès maintenant sera en cours. Ça continue, comme je le disais, suite au problème de harcèlement de l'été. Donc, je voulais le mentionner aussi. Et on arrive à la fin de cet épisode bien rempli. Merci d'avoir passé du temps avec, on dit arbitration ou médiation. Merci beaucoup les amis du studio Renegade pour la version française. Arbitration ou médiation. Donc merci à tous les trois d'avoir été avec moi. C'était un épisode bien rempli et qui m'a encore donné envie de jouer à des jeux auxquels je n'aurais pas forcément le temps de jouer. Mais au moins, on en a parlé. Donc une partie du plaisir est pris. Je vais aller dans le sens inverse par rapport à tout à l'heure. Du coup, Thomas, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet quand tu n'es pas en train d'officier dans des podcasts ?
Eh bien, écoute, gamecult.com, tout simplement. N'hésitez pas à venir vous abonner pour lire nos romans et regarder nos émissions et les écouter également, avec évidemment plein d'actu qui arrive. Et là, on est très occupé en ce moment. C'est un peu... Ça se bouscule, mais bon, c'est ce qu'on aime. Super période. Et puis, je fais aussi de la musique, tiens, j'en profite. N'hésitez pas à taper mon nom dans Spotify pour aller écouter mon premier album.
Ama Ebi.
Et ouais, comme là. Ça. Non, alors Thomas Merreur pour le coup.
Ah bah sens. Merde, ok, d'accord.
Ah oui, non, mais on est un peu sérieux, quoi. On fait de la vraie musique de dépressif, quoi. Donc,
très voilà, bien,
piano
très bien.
Mélancolique, des voix cristallines. Donc, voilà.
Super. Écoute, on mettra le lien vers ton compte Twitter. Comme ça, les gens pourront retrouver tout ça. On le mettra dans les notes de l'émission.
Nickel, merci.
Aurélie, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver, peut-être, où on peut retrouver toi et Asobo, du coup ?
Eh bien, à Bordeaux, en terrasse, avec un petit verre de rouge, à consommer avec modération. Et puis, sur Twitter, j'ai un compte Twitter sur lequel je communique des petites choses sur le studio. Ce sera avec plaisir si vous avez des questions.
Ça marche, et le compte Twitter sera évidemment dans les notes de l'émission également. Merci beaucoup Aurélie. Dani, où est-ce qu'on peut te retrouver toi sur Internet ?
Eh bien, comme d'habitude, sur Twitter, @notedani, tout simplement.
Twitter.com/notedani, il ne parle pas forcément beaucoup, mais il lit absolument tout, impossible de
Et je réponds régulièrement quand même.
C'est vrai, c'est vrai. Tu réponds, tu ne t'exprimes pas, mais tu ne t'exprimes pas naturellement, mais quand on vient te poser une question ou te dire que tu es une personne d'une qualité exceptionnelle, tu as la gentillesse de remercier quand même.
Et si vous avez des suggestions de jeux qu'on pourrait faire essayer à Patrick, envoyez-les-moi. Il sera obligé d'y jouer au moins 3 heures.
Mon Dieu. Oh, au moins 3 heures, ça va encore. Tu sais, il y a des jeux plus longs que j'ai faits et qui m'ont fait souffrir. je vois que sur Twitter, tu as retweeté notre ami Gabriel Katz, c'était en 2018. Ah oui, d'accord, c'était 2018. C'était la part des ombres. C'est vieux. Super, et ben merci à tous les trois. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, et sur notepatrick.com où vous pouvez retrouver tous les liens vers tout ce que je fais, et notamment les liens vers les différentes émissions et les liens vers sur notepatrick.com, il y a les liens vers le podcast, les abonnements au podcast dans les différentes apps, mais aussi le podcast est disponible en replay, alors en live sur Twitch, vous le savez, mais aussi sur YouTube. Maintenant, on a une chaîne dont j'ai pas du tout parlé encore, mais une chaîne qui archive les replays. Donc, si vous voulez voir la version vidéo du site, vous pouvez aller sur cette chaîne-là et vous avez donc la version vidéo, pas du site, mais de toutes les enregistrements des émissions. Ou si vous aimez utiliser ça sur YouTube, il y a un lien sur notepatrick.com dans le cartouche le rendez-vous jeu, c'est en replay, donc ça c'est super pratique. Il y a aussi un lien vers le Patreon, comme on disait tout à l'heure, si vous voulez soit vous assurer que vous êtes une personne très très cool, c'est passé à très très cool carrément, patreon.com/rdvjeux. N'oubliez pas, c'est le prix d'un café, le prix d'un croissant, le prix d'un pain au chocolat ou d'une chocolatine au choix, et ça fait hyper plaisir et vous avez des bonus, c'est sur patreon.com/rdvjeux. Ça enlève les pubs, ça donne les timecodes, ça donne des bonus, etc. C'est très très cool. On vous fait de grosses bises et on se retrouve du coup dans une semaine pour un nouvel épisode avec encore tout plein de jeux. Merci à tous d'avoir été là et à très vite. Ciao, ciao.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.